Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Avant de lancer ce nouvel épisode, j'ai deux nouvelles importantes. La première, c'est que Halal Love va passer la barre symbolique des 2000 écoutes, ce qui est vraiment bien pour un début. Je vous remercie sincèrement pour vos écoutes et vos partages. N'hésitez pas à continuer de propager le message autour de vous, ça fait vraiment la différence. Et puis surtout à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un moyen très 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 efficace de sortir du lot. C'est important pour le podcast. Et par la même occasion, vous gagnez des hassanettes. Donc vraiment, tout est bénéfique, c'est formidable. Voilà, je vous remercie beaucoup par avance. Et la deuxième nouvelle, c'est que la diffusion du podcast prend une petite pause et reprendra le mardi 7 septembre, Inch'Allah. Je vais pas vous cacher, je suis épuisée. Je travaille trop en flux tendu et du coup, j'ai pas une bonne visibilité sur ce que je veux faire par la suite. Et surtout, si, je sais ce que je veux faire, mais j'ai du mal à voir un peu comment je peux le faire de manière efficace. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse place à cet épisode qui est très spécial, en espérant qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute! Et en fait, on alignerait tout cet amour inconditionnel de toutes les mères du monde. Ce serait un simulacre de l'amour qu'Allah il a pour nous.
Complètement, complètement. On n'a pas idée, en fait, à quel point l'amour inconditionnel d'Allah est immense, en fait. C'est limite, s'il devait y avoir un grand péché, ce serait ça, en fait. De contenir, de restreindre, de désespérer de la rahma divine, en fait. Parce que c'est un ordre. La taqnatou, c'est très grave, en fait. Pour nous, parce qu'on se prive de quelque chose, en fait.
La première fois que j'ai révélé le nom de mon podcast à mon entourage, certains ont ri. Halal love. Du halal et du love. Comme si c'était une hérésie. Comme s'il était étrange de fusionner le religieux et les sentiments amoureux. Pourtant, moi, ma foi, ma relation avec Allah se nourrit de cela. De l'amour qu'il a pour moi, pour nous, de celui que je cherche tendrement, maladroitement, à lui manifester, même lorsque je ne suis pas concentrée, même quand je suis fatiguée, même lorsque mon niveau d'engagement n'est pas là où je souhaiterais qu'il soit. Il y a 10 semaines comme ça, genre cette semaine-là. Pour ce dernier épisode du Halal Book Club spécialité, j'ai invité une personne chère à mon cœur, car elle y a fait naître un nouvel amour pour Monseigneur. Bouriz est une enseignante de sciences religieuses qui se base sur l'étymologie des mots du Coran pour nous permettre de découvrir ses enseignements avec profondeur et douceur. Mais avant de laisser place à notre conversation, je partage avec vous deux ouvrages qui portent quasiment le même nom et nourrissent la même ambition, cultiver dans nos cœurs une foi incommensurable, inébranlable en notre Créateur. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, on aborde la question de l'amour qu'Allah nous porte à travers deux ouvrages. Le premier, c'est « Comprendre les noms d'Allah » de Abdelrazak al-Badr. Et le second, c'est « Je veux comprendre les 99 noms d'Allah » de Maurice Glotton. Je vais commencer par le livre de Abdelrazak al-Badr, parce que c'est le premier que je me suis procuré. Donc il a une attention assez particulière, mais vous allez le voir, les deux sont très très riches en enseignements. Ce que j'aime dans le livre « Comprendre les noms d'Allah », eh bien en fait, ça commence dès le sous-titre en fait de l'ouvrage. C'est un hadith de Ibn Qayyim qui dit « Quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes l'aimera forcément ». Voilà, tout est dit. Moi, je comprends tout à fait cette logique-là et j'en suis une adepte. C'est mathématique qu'on peut difficilement aimer quelque chose, un être qu'on ne connaît pas. Et ce livre-là fait la promesse, dès l'introduction, de nous aider à aimer encore plus notre Seigneur une fois qu'on aura refermé le livre. Alors, j'aime ce livre. Pourquoi ? Parce que, ça peut paraître très futile, hein, et c'est pas grave, mais c'est un beau livre. C'est un beau livre. La couverture, elle est cartonnée, le livre, il est solide, les pages à l'intérieur... Il y a une belle mise en page, voilà, il y a une belle mise en page. Et même la couleur, en fait, des pages, elle donne envie. Et ça peut paraître superficiel, futile, mais en fait, pas tant que ça. Ça fait toujours plaisir et ça noue une relation, un livre qui est beau au regard et au toucher. Si je me concentre sur le contenu, c'est un livre dont l'écriture est quand même plutôt fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques en religion avant de le commencer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Hein. Alors après, parfois on a des connaissances et on ne se rend pas compte, mais j'ai quand même un niveau de connaissance qui est quand même assez faible. Et malgré tout, je ne me suis pas sentie perdue ou j'ai pas eu le sentiment qu'on ne s'adressait pas à moi. Et ça, c'est aussi important quand on veut entrer en connexion avec des connaissances qui sont importantes pour notre foi. Et puis, si je continue sur le contenu, l'introduction de ce livre, elle est super. Elle est essentielle, elle est formidable et elle est rassurante. Moi, je dirais même que c'est la plus grande force de cet ouvrage-là. L'introduction, elle fait environ 70 pages. 70 pages, les amis, alors que le livre, il en fait un peu plus de 300. C'est un peu moins du tiers, mais du coup, c'est quand même beaucoup. Et ça peut paraître trop, mais en fait, ce qui est très agréable dans toutes ces pages-là, c'est que ça introduit en douceur le sujet et ça nous conforte ça nous conforte dans la démarche qu'on fait en s'offrant ce livre-là. Parce qu'en fait, quand on va vers ce livre-là, c'est qu'on se dit, moi, je veux comprendre Allah. Souvent parce que je veux le comprendre, parce que je veux l'aimer mieux, parce que je réalise que je le connais pas assez, que j'ai pas par exemple, je suis pas assez concentrée dans ma prière, et c'est peut-être lié au fait que ben j'ai pas le sentiment d'entrer en conversation avec Allah quand je prie. Et ce livre-là, il est fait un peu pour réparer sa relation avec le Seigneur, mais l'introduction, elle explique très très bien pourquoi en fait c'est important de travailler cette relation-là et pourquoi en fait cette relation-là elle sera travaillée à travers les noms d'Allah. Juste pour information, dans l'introduction, il y a différentes sous-parties telles que les effets des noms d'Allah sur les hommes et la création, mais aussi sur son adoration, la différence entre noms et attributs, les bénéfices et les mérites tirés de la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Donc c'est quand même vraiment, franchement c'est une introduction qui est hyper riche, on a l'impression d'entrer dans un espèce de petit cocon avant justement la lecture, et c'est très très agréable. La dernière, enfin moi, le dernier avantage que j'ai trouvé à ce livre-là, ce qui m'a plu, c'est la fluidité et la richesse d'explication. C'est-à-dire que pour chaque nom et attribut, on a environ 2 pages. C'est un livre qui est quand même assez grand, hein. C'est peut-être pas une feuille A4, mais ouais, c'est quand même assez grand en taille, pardon, j'ai pas les dimensions. Donc voilà, 2 pages, c'est assez riche. Et il y a une multitude de hadiths à découvrir, à redécouvrir. Et franchement, ils sont magnifiques. J'en partage un notamment lors de notre conversation avec Houri, qui est tellement beau. Ouais, vraiment, c'est l'un de mes préférés. N'hésitez pas, si vous avez d'autres hadiths à partager, moi je serais ravie de les lire, de les relire comme d'habitude. Mes coordonnées, elles sont dans le descriptif de l'épisode. On va passer aux limites de cet ouvrage. Le premier, c'est que bah justement les hadiths et ce qu'on appelle les versets, qu'on appelle en réalité les ayahs, les signes, sont en français uniquement. Et c'est bien dommage pour ceux qui aiment lire l'arabe et ou qui ont déjà un bagage de vocabulaire et qui souhaitent un peu se réapproprier l'exercice de la traduction. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais souvent on dit que traduire, c'est trahir. Bon, c'est un peu fort, hein, mais c'est juste pour expliquer que parfois, enfin, quand on traduit, on fait des choix. Voilà, clairement, quand on traduit, on fait des choix. Et c'est se séparer d'un certain nombre de significations pour mettre en valeur un autre type de signification. C'est fait par des personnes dont l'intention est vraiment bonne, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et en tant que musulman, on se doit de les croire. Mais c'est vrai que ben, si vous avez déjà un bagage en termes de vocabulaire, eh bien, réappropriez-vous la traduction. C'est bien plus riche quand on cherche à justement entrer en connexion avec les noms et les attributs divins. La dernière limite, ça concerne toujours les traductions, c'est le fait que les noms et attributs qui sont traduits, on n'explique pas, l'auteur n'explique pas comment il a procédé pour traduire le nom. Alors, c'est des traductions qui sont communément répandues, hein, Al-Basir, celui qui voit tout, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, mais c'est vrai que ça donne au livre ce côté, ça veut dire ça. Et d'ailleurs, dans la suite des explications, il y a des moments où ça paraît un peu tranché. Parfois, ça peut manquer d'explications, voire de nuances. Mais ça, c'est mon ressenti, hein. C'est pas, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pareil, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Parce que dans l'ensemble, ça reste un ouvrage à avoir chez soi. Quand on souhaite justement passer plus de temps avec les noms et les attributs d'Allah, c'est un bel outil de connexion. Ça, c'est pour le premier ouvrage. On va passer au second ouvrage qui est donc, je rappelle, Je veux comprendre les 99 noms d'Allah de Maurice Glotton. Maurice Glotton, c'est un des plus éminents islamologues français qui a traduit de nombreux ouvrages et qui est connu et respecté pour son savoir dans le vocabulaire de la langue arabe et pour sa capacité à traduire avec précision chacun des mots. Et justement, c'est l'une des grandes forces de l'ouvrage, c'est qu'en fait, pour traduire les noms et les attributs divins, il s'appuie sur deux choses. La première, ce sont les ayahs du Coran, ce qu'on appelle en français les versets. Et la deuxième chose, ce sont les significations étymologiques de chaque nom. Et ça c'est l'un des éléments les plus déterminants. Parce que pour ma part, la découverte des significations étymologiques des mots, ça a changé mon rapport à certains d'entre eux, et donc plus ou moins mon rapport avec Dieu et avec ma pratique religieuse. Bien évidemment, c'est loin d'être gagné. Voilà, c'est pour vous dire que ça a vraiment eu son effet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, subhanallah, on voit à quel point tout a un sens. C'est-à-dire que vraiment, on va en parler hein, dans notre version avec Wouri, quand vous entendrez comment on traduit étymologiquement la rahma, mais potentiellement ça peut vraiment changer la manière dont vous introduisez votre... Enfin, quand on commence en disant Bismillahirrahmanirrahim, ça peut vraiment avoir un impact sur la manière dont on prononce ce verset-là, en fait, cette ouverture-là. Et voilà, encore une fois, vous m'en direz des nouvelles, mais moi, en tout cas, ça a eu cet effet-là et je pense que ça diffère d'une personne à l'autre. Mais quand on est une personne qui aime bien comprendre, c'est un ouvrage qui peut être extrêmement utile et qui pourra vraiment beaucoup vous plaire. Le deuxième autre point fort de l'ouvrage de Maurice Glouton, c'est qu'il est concis. Ça paraît contradictoire avec ce que je vous ai dit au sujet de l'ouvrage de Abdelrazak Al-Badr, mais les deux ont leur avantage. C'est-à-dire que dans le premier ouvrage, on apprécie cette richesse, la multitude des hadiths. Dans le deuxième ouvrage, on apprécie le fait que ce soit plus efficace, entre guillemets, dans l'écriture. Et moi, ce que j'ai trouvé, mais encore une fois, c'est mon ressenti, mais je l'ai partagé avec d'autres personnes qui ont compris ça et qui étaient plus ou moins en phase avec ça aussi, c'est que le premier ouvrage, c'est un ouvrage quand on veut vraiment prendre le temps de méditer sur chaque nom et attribut d'Allah. Le deuxième ouvrage, celui de Maurice Glouton, moi je trouve qu'il est super quand on veut justement avoir une explication claire, une explication précise et qu'on veut méditer sur le Coran. Parce qu'en fait, on réalise que du coup, quand on comprend comment fonctionnent les racines étymologiques, et bien en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres noms qui sont tirés d'une même racine étymologique. Et donc du coup, vous relisez le Coran avec une autre lumière, parce qu'avec une autre orientation, d'autres traductions, une richesse de traduction. Attention, on part pas. Les traductions sont pas opposées. Hein, attention, hein, ça se ressemble. Mais moi, ce que j'aime dans le livre de Maurice Glouton, c'est que il y a vraiment le champ des traductions est beaucoup plus large, beaucoup plus précis. Et ça, franchement, c'est extrêmement agréable parce que quand on lit le Coran, eh ben, on le redécouvre à travers ces racines étymologiques que l'on découvre. Et le dernier point qui est agréable sur ce livre-là, c'est que la plupart du temps, la conclusion qui est apportée à la fin de chaque nom et attribut qu'on nous dévoile, c'est un peu une exhortation pour le croyant à utiliser les connaissances fraîchement acquises pour se rapprocher d'Allah. Voilà, on nous dit, Al-Jamir, c'est celui qui rassemble. Donc le croyant se doit de rassembler aussi un petit peu ses pensées avant de prier. Le croyant doit vraiment être dans ce rassemblement-là aussi, au sein de sa communauté. Vous voyez, il y a des liens qui se font. Et je trouve que c'est une exhortation qui se fait avec douceur et avec réflexion. Voilà pour ces deux ouvrages. Je vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Wouri et bien évidemment je vous donnerai tous les liens et toutes les informations de tout ce qu'on va se partager, de tout ce que je viens de vous partager dans le descriptif de l'épisode. Sans plus attendre, place à notre conversation avec Wouri. Salam alaikum Wouri, comment ça va?
Salam alaikum wa rahmatullahi, très bien, alhamdulillah, et toi comment vas-tu?
Ça va très très bien, je te remercie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur un thème bien particulier. Mais avant d'expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi Wouri, elle a eu un impact, elle est chère à ma foi, et pourquoi les termes qu'on va aborder ont transformé ma perception d'Allah et ma relation avec le Seigneur, je vais déjà te demander, Wouri, de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
Très bien. Alors, je m'appelle Wouri. Donc, dans la vie, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les sœurs justement à améliorer leur rapport au divin, à donner beaucoup plus de sens à leur vie et notamment à leurs pratiques spirituelles et religieuses à travers mes programmes de formation et d'accompagnement. Voilà. J'ai commencé à, à enseigner et à transmettre la langue arabe, tout ce qui touche à la langue arabe au Coran, en 2008. Et puis depuis, ben, je n'ai pas arrêté. J'y suis encore, par la grâce d'Allah,
Alhamdoulilah, bah tant mieux pour nous.
alhamdoulilah.
Wouri, j'ai introduit mon propos en parlant du manque de représentation de Dieu lorsqu'on parle d'amour. Parce que tu me diras ce que tu en penses, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur la question, mais moi j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout passe par l'amour. C'est-à-dire que dès lors où les gens s'aiment, tout passe, ça devient la seule norme. Et en même temps, on a complètement ôté de l'amour la présence de Dieu, la présence du divin. C'est-à-dire qu'il y a les hommes avec un grand H, hein, qui s'aiment entre eux, et à côté, la religion, eh ben, c'est là pour les règles, c'est là pour sévir, c'est là pour durcir. Et moi, j'ai le sentiment que ça a un impact direct, cette absence de Dieu, et donc cette absence de Dieu quand on parle d'amour, c'est un véritable impact. Pour les croyants, c'est un véritable impact dans notre foi à nous. En tout cas, moi, ça a eu un impact sur la mienne. Est-ce que c'est une problématique que tu as pu voir avec les personnes que tu accompagnes également?
Oui, effectivement, je l'ai remarqué. Il y a beaucoup cette notion de peur et de crainte, en tout cas à travers ce que j'ai pu entendre comme témoignage de la part des sœurs au début. Et justement, quand elles rejoignent mes programmes et accompagnements, elles me disent, ben, en fait, avant, j'étais plus dans la peur dans ma pratique et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'amour. Parce que justement, ben, on nous a présenté, et puis même à moi aussi un peu, ce Dieu qui sévit, qui châtie parce qu'on aurait fait des péchés, etc. Alors certes, l'humain n'est pas parfait et on fait tous des erreurs, mais il faut jamais oublier que la rahma divine, justement, l'amour inconditionnel d'Allah est infini. Et justement, il nous demande dans le Coran de... enfin, le passage, c'est « La taqnatu min rahmatillah », c'est-à-dire de ne jamais réprimer, contenir, et donc ne jamais désespérer de la rahma divine. Et ça, c'est une notion que si on garde en tête constamment, ben en fait, on va être beaucoup plus dans l'amour et j'ai envie de dire que notre vie sera beaucoup plus belle, beaucoup plus apaisée, voilà, beaucoup plus sereine.
C'est magnifique. Ben justement, j'allais te demander pourquoi, selon toi, la notion d'amour, elle est capitale dans notre relation avec le Seigneur. Tu as déjà un peu répondu, mais j'aimerais vraiment qu'on aille plus loin parce que tu l'as dit, je pense que dans nos enseignements, dans nos premiers enseignements, on a beaucoup cette présentation d'Allah comme une entité qui sévit quand on agit mal. On a beaucoup ces règles. On n'est pas là pour dire que les règles, c'est pas important. Hein. Moi, j'ai toujours que, en fait, les règles, le FIRP, c'est comme un trampoline, en fait. C'est-à-dire que tu as besoin de ça pour rebondir et après vraiment t'envoler vers différentes stations et rejoindre le divin. Tu peux pas espérer rejoindre le divin si tu n'es pas carré sur certaines choses, si tu t'éloignes pas de certaines choses qui, justement, t'en éloignent. Maintenant, pourquoi c'est important, voire nécessaire de comprendre qu'Allah nous aime et qu'on se doit d'aimer Allah pour pouvoir bien cheminer spirituellement.
Bah, je vais embrayer directement par le premier terme qui renvoie justement à l'amour du divin, en fait, à la rahma. Et quand on commence à n'importe quelle action, on dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Donc ces deux termes, ar-Rahmani ar-Rahim, et deux noms divins, qui renvoient à la notion de rahma et qui justement est mal compris, mal traduit par beaucoup, j'ai envie de dire. Si on revient justement à l'étymologie de la rahma, les Arabes l'utilisaient à l'époque de la révélation pour désigner l'utérus, donc l'utérus de la maman. Le symbole utérus, ben, à quoi ça sert l'utérus? Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a la vie dans l'utérus, donc il y a le fœtus là qui prend vie, l'embryon, et il y a ben, le fruit d'amour hein, entre un homme et une femme. Donc, cette notion de vie et d'amour, c'est ce qu'on a dans la rahma. Donc, la rahma, c'est l'amour qui est à l'origine de la vie. Et
Et puis dans l'utérus, il y a aussi, pardon, je t'interromps, mais dans l'utérus, il y a aussi ce début d'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, dans cet utérus-là, naît l'enfant, et en fait, le lien d'une mère avec son enfant, dès lors où c'est un lien qui est sain, bien évidemment, on ne parle pas de relation
oui.
toxique ici, c'est un amour qui est presque sans condition, en fait. Et c'est presque un amour qui est plus fort que nous, qui nous transcende, non?
Exactement, exactement, Exactement. Si on fait le lien justement avec la vie, l'utérus, etc., ben, en fait, d'autres raisons, enfin, la preuve la plus grande, j'ai envie de dire, de l'amour inconditionnel du divin, c'est le fait qu'on soit vivant. Et ça, sans condition, malgré que. Et puis, il continue à subvenir à nos besoins, à prendre soin de nous, à veiller sur nous, malgré ben, nos imperfections, nos défauts, nos erreurs, nos manquements. Donc, il y a cette notion d'amour inconditionnel pardon, dans la rahma. Il y a aussi, si on revient à l'utérus, il y a aussi pour que la vie puisse, pour que l'enfant puisse venir au monde, ben, il y a des phases de contraction et de dilatation. Et ça fait partie de la rahma divine. Donc, ces phases de. Cet amour qui est à la fois contractant et dilatant. Donc, les phases de contraction, ben, les épreuves, par exemple, c'est des phases de contraction qui sont nécessaires et qui sont à la fois rahmaniques, mais qu'on peut avoir du mal à percevoir telles quelles parce que ben, on n'a pas été éduqué forcément à voir ça de cette manière-là.
À avoir l'épreuve comme une
Ouais.
bénédiction. Donc en fait, c'est très très important ce que tu dis là, parce que ça peut vraiment transformer encore une fois la perception qu'on a de la vie. C'est qu'en fait, l'épreuve en soi est une bénédiction. Cette épreuve de contraction, c'est une bénédiction.
Exactement, c'est une bénédiction et
C'est une preuve d'amour.
exactement, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour et c'est essentiel, j'ai envie de dire, pour justement cheminer vers Allah, pour gravir l'échelon de la réalisation de soi. Et voilà.
Tu peux expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est une bénédiction? Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose de naturel dans la compréhension qu'on a d'une épreuve. Moi, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, qui est l'épisode 9, où je fais la revue du livre Renoue avec ton cœur de Yacine Mojahed. Et j'explique que moi, pendant très longtemps, l'épreuve, pour moi, c'était de la souffrance. Et en fait, la souffrance pure, ça intéresse quand même peu de monde. C'est dur
Exactement.
de souffrir. Et en fait, j'ai compris avec le temps qu'en fait, ce n'est jamais souffrance pure et qu'il y a une espèce de délivrance à la fin. Mais je pense que ce serait bien que tu en reparles un petit peu. Pourquoi finalement c'est une preuve d'amour de recevoir une épreuve?
Bah, déjà, si on revient aux deux termes qui sont utilisés pour désigner et qui renvoient à l'épreuve, la fitna, déjà dans un premier temps, bah, la fitna, c'est quoi? C'est une épreuve qui va venir nous forger et nous purifier. Et on dit, enfin, dans le Coran, il y a innama amwalukum wa auladukum fitna, donc vos biens et vos enfants, pour faire simple, votre progéniture, sont une fitna, donc sont une source, justement, qui vont nous permettre de nous purifier, de nous forger, de grandir, de se surpasser aussi et d'évoluer. Donc, la fitna, c'est une épreuve qui va venir nous purifier, nous forger, et nous formater, nous former. Ça, c'est pour la fitna, donc en tant qu'épreuve. Donc, tu vois que c'est quelque chose de positif d'être éprouvé et que cette épreuve-là permet justement qu'on soit purifié par Allah, qu'on soit forgé, qu'on soit beaucoup plus. Comment je vais dire?
Ça nous rend plus
Voilà,
précieux presque.
exact.
Tu vois, quand je t'entends, je me dis, mais on n'est pas là pour réclamer des épreuves, hein. Mais en tout cas, de se dire, quitte à ce que ce soit difficile, à la fin quand même, on est meilleur. Et Yacine Jahat, dans une intervention, elle parlait aussi de ça, du cœur, qui, elle dit en fait, par la grâce d'Allah, le cœur, c'est un organe qui se brise, entre guillemets, quand tu as le cœur brisé, mais c'est le seul organe qui, quand les morceaux se recollent, il est encore plus fort. C'est-à-dire que plus ton cœur se brise, plus quand il se recolle, il est encore plus fort et il se rebrisera plus comme avant en fait. La première fois, il se brise en 1000, puis après en 900, puis après en 800, puis après de moins en moins, parce que par la grâce d'Allah, ces épreuves-là, elles te fortifient, elles te rendent plus précieux, plus fort. En fait, elles te rendent plus fort en même temps qu'elles te rendent plus beau quelque part.
Exactement. Ben, normalement, en principe, en sortant d'une épreuve, on n'est plus la même personne. On a passé un cap, j'ai envie de dire. On est passé à une étape supérieure. En tout cas, c'est comme ça que l'islam le conçoit. Donc ça,
D'accord,
c'était pour
ok,
la fitna.
d'accord.
Après, pour le bala ou l'ibtila, qui est un rite initiatique de passage et qui est aussi une épreuve qui permet de mettre en exergue, de révéler la valeur d'une chose, de mettre en exergue les qualités d'une chose. Donc on a besoin d'être éprouvé justement pour montrer un peu, pas déjà. Est-ce qu'on a vraiment la foi? Comment est notre foi? Et ça permet, comme tu disais tout à l'heure, de nous renforcer, de nous renforcer, de nous rendre plus beaux, de nous rendre plus forts et de renaître aussi. Après une épreuve, c'est un peu aussi comme une sorte de mini-renaissance.
quand on parvient à
Ouais,
en
quand on parvient
sortir.
à
C'est
la
ça aussi.
surmonter, oui.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as des passages dans le Coran ou peut-être la sourate Ar-Rahman ou des hadiths qui peuvent un peu aider les gens à comprendre et à témoigner de l'amour inconditionnel? Parce que c'est ça, hein, je ne suis pas sûre qu'on ait traduit finalement mot à mot ce que c'est que la Rahma, mais est-ce que tu peux du coup le retraduire pour les personnes, pour qu'on l'ait bien en tête? Et est-ce que tu peux nous faire profiter peut-être de ta science sur le Coran et la parole d'Allah pour expliquer aux gens jusqu'où va cette Rahma?
Oui, alors pour revenir sur la rahma, si on devait traduire simplement, c'est l'amour inconditionnel qui est contractant et dilatant. Ensuite, pour les passages du Coran, là, le premier passage qui me vient, c'est quand Allah dit « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma », c'est-à-dire que votre maître s'est prescrit à lui-même la rahma, c'est-à-dire qu'il s'est imposé à lui-même la rahma. Et ça, c'est magnifique, je trouve, parce que c'est enfin, l'une des seules choses qu'il s'est imposé à lui, c'est la rahma, et puis il s'est interdit aussi le zulm, c'est-à-dire, on va dire, l'injustice, pour faire simple. Donc, déjà, il s'est prescrit, son devoir sur nous, c'est de faire preuve de rahma envers nous. Donc, il n'était pas
Donc
obligé.
quand même, hein,
Il n'était pas,
voilà, on
ouais,
peut
c'est ça.
s'arrêter
Il n'était pas
là-dessus. Il
obligé,
n'était pas
mais voilà.
obligé.
Mais
Merci.
voilà, il s'est prescrit à lui-même, tout simplement, la rahma.
Et c'est, enfin, il y a une chose qui s'est prescrite quand
Ouais.
même. Il y a une chose qu'Allah s'est prescrite alors que franchement, il n'était vraiment pas obligé pour le coup. C'est l'amour
C'est
inconditionnel.
ça.
C'est fou ou
C'est, ah
pas?
oui, c'est magnifique en fait. Quand on
C'est
pense à tout
magnifique.
ça, en fait, on ne peut que avoir de l'espoir en fait sur notre condition, notre sort, même si on sait qu'on est des êtres imparfaits, qui faisons, comme je disais tout à l'heure, des erreurs, qui avons nos manquements, nos défauts, etc. Et de se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, Allah fera toujours preuve de rahma envers nous, même dans les pires situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça, c'est magnifique en fait. C'est génial.
Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Franchement, mais c'est, je te remercie vraiment de d'être venu sur cette notion-là parce que vraiment, pardon, je reviens dessus, mais moi, je trouve que ça manque encore trop, en tout cas au sein de la religion musulmane. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais tu sais, souvent, dans la religion chrétienne, on entend « Oui, Dieu est amour, Dieu est amour », mais alors, en fait, nous, on ne l'entend pas assez parce que justement, on dit souvent qu'Allah, il est très miséricordieux. C'est un terme qu'on ne connaît pas beaucoup. Et en fait, on s'arrête un petit peu à ce terme-là qu'on ne connaît pas, alors qu'en fait, c'est bien plus large que ça, en fait, en réalité.
Exactement, exactement. Et on peut envier les chrétiens justement pour ça en fait. Moi, je trouvais ça trop beau, même à l'époque, avant de savoir que, enfin, cette définition-là de la rahma, de se dire Allah,
Pareil
Dieu
que
est
toi.
amour. Moi, ça me subjuguait. J'étais, mais il n'y a pas ça dans le Coran quelque part. Et en fait, c'est juste que on l'a pas vu en fait, ou on l'a mal traduit, ou je sais pas, parce que probablement il y a des gens qui savaient ça, mais c'est pas ce qui est transmis de manière notoire. Répondu en fait. Et ça, c'est dommage. C'est
Oui,
dommage.
c'est très dommage. Et en plus, enfin, pour le coup, je veux dire, même en anglais, on te dit the most merciful. Et merciful, bah, c'est pareil, c'est
Ouais.
miséricordieux. Donc en fait, c'est vraiment, c'est pas une problématique franco-française en
Ouais.
fait.
C'est vrai. C'est vrai. Et la miséricorde, c'est avoir du cœur pour la misère d'eux ou de la compassion pour la misère d'autrui. Et misère, quand on parle d'Allah, on aimerait avoir un terme un peu plus joyeux, mais
Oui.
la rahma englobe aussi la miséricorde divine, on est d'accord. Mais c'est juste
Oui,
que
en
ça
fait,
restreint le champ de la rahma si on traduit par la
exactement.
miséricorde.
C'est ça. Moi, je pense que c'est important qu'on le reprécise. La miséricorde est un acte d'amour.
Oui, complètement. Oui.
Quand on en discutait avant l'enregistrement, moi, la définition que j'ai vue de la miséricorde, c'est donc miséricorde du latin misericordia, pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Et ensuite, pardon accordé par pure bonté. Il y a quand même des
Oui.
choses qui sont belles dans tout ça et on en parlait, je ne sais plus du coup si c'est dans un hadith ou dans le Coran directement, où il est dit qu'en fait, ce qui nous fera rentrer au paradis, si on y
Ouais.
rentre, c'est la
Oui,
bonté
c'est
d'Allah
ça.
en fait, ce n'est pas nos
Ouais.
actions, c'est la miséricorde d'Allah. Donc la miséricorde d'Allah, et ça c'est quand même
Oui,
un
on est
bel acte
d'accord.
d'amour
On
hein,
est
quand même de
d'accord.
pouvoir rentrer au
Ouais.
paradis alors que bah, quelque part, c'était que nos actes, on n'y serait
Ouais.
pas. Il n'y a pas plus grand acte d'amour. Donc en fait, moi quand je pense à ça, je comprends l'importance de la miséricorde.
Oui.
Maintenant, c'est vrai que cet amour inconditionnel, il y a vraiment... Moi, je trouve que commencer sa prière en se disant par le nom d'Allah, et là, justement, ça permet de couper ce truc d'envier le christianisme, etc., parce que c'est par le nom d'Allah qu'il y a le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour.
Complètement.
Alors là, t'as plus besoin de personne
C'est
d'autre
ça.
qu'Allah. Et en plus, toutes nos prières commencent par ça.
Exactement.
C'est magnifique
Tout
ou
nos,
pas?
enfin, en principe, tous nos actes même de la vie quotidienne devraient commencer par ça. Et
C'est vrai ce que tu
si
dis.
on fait ça, en fait, si on dit à chaque fois Bismillahirrahmanirrahim, ben, en fait, on se dit que en fait, tout ce qu'on est en capacité de faire, c'est que par la grâce divine, en fait, et son amour inconditionnel envers nous.
Ah,
Ouais.
c'est magnifique. J'aimerais vraiment prendre le temps de rappeler un hadith qui parle de la rahma divine. Donc, c'est dans le livre de Abdelrazak al-Badr. Hein. Donc, ce livre-là cite un hadith qui est quand même assez connu. Allah est tout-puissant et plus miséricordieux envers ses serviteurs qui ne le sont entre eux, aussi élevé que soit le degré de cette compassion mutuelle. Dans un hadith, Omar ibn al-Khattab relate: on amena des captifs aux messagers d'Allah. Parmi ceux-ci se trouvait une femme qui cherchait son enfant. Aussitôt qu'elle le trouva parmi les captifs, elle le prit, le serra contre son ventre et lui donna le sein. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors: verriez-vous cette femme jeter son enfant au feu? Nous répondîmes: non, par Allah, elle serait incapable de le jeter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirma: certes, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Je trouve que ce hadith, il explique du coup ce rapport à l'utérus. Ce hadith, il explique que on alignerait tout l'amour. Et là, pour le coup, c'est vraiment un acte d'amour. Ça a été traduit par
Oui,
miséricorde. Mais moi, je trouve que l'exemple qui est
c'est un acte.
donné, c'est un acte d'amour,
Exactement.
justement. C'est de montrer à quel point une mère, elle aime son enfant. C'est pas tant elle est miséricordieuse, c'est elle l'aime. Elle l'aime d'un amour inconditionnel. Et en fait, on alignerait tout cet amour inconditionnel de toutes les mères du monde. Ce serait un simulacre de l'amour qu'Allah il a pour nous.
Complètement, complètement. On n'a pas idée en fait à quel point l'amour inconditionnel d'Allah est immense en fait. Ouais.
C'est ça. C'est incommensurable et c'est
C'est ça.
inimaginable. C'est
C'est beau,
beau.
ouais, c'est magnifique,
C'est
ouais.
magnifique.
C'est incroyable, en fait. Quand on y repense, quand on médite dessus, on reste bouche bée, en fait. Et c'est là qu'on doit garder espoir et se dire, en fait, ben, si je sais qu'Allah est amour avec un grand A, même si je ne peux pas m'imaginer l'amour qu'il me porte, ben, je ne peux pas désespérer et me dire, Allah ne m'aime pas, je ne mérite pas son amour, parce qu'en fait, il est déjà amour. Ar-Rahman, c'est ça, il est amour, en fait.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le terme Al-Wadud? Parce que je crois comprendre que ça complète un petit peu la Rahma. Je te laisse un peu expliquer comment ça se traduit d'un point de vue étymologique. Parce que, pareil, je ne sais pas si on l'a dit, pardon, hein, désolé, mais en fait, le but de cette conversation et la méthode d'enseignement nourri, c'est toujours de repartir sur la racine et l'étymologie des termes. C'est d'ailleurs ce que fait très bien Maurice Glouton dans le livre « Je veux comprendre les 99 noms d'Allah ». À partir de l'étymologie, comment est-ce qu'on traduit Al-Wadud et pourquoi c'est un nom qui est extrêmement puissant, même si on le voit pas souvent apparaître dans le Coran?
Oui, alors Al-Wadud de la racine Wadada, c'est le lien. Ça. La première utilisation, c'est le lien. Tout ce qui vient lier quelque chose, attacher quelque chose. Donc la Mawadda, parce que Allah parle de la Mawadda quand il parle de la relation dans un couple, en fait. Il dit Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Donc la Mawadda, c'est l'amour, mais cet amour qui va lier, qui va attacher, qui va unir deux êtres. Et ce qui est différent de l'amour, la rahma, en fait.
De
Voilà.
la rahma. Parce que la rahma, c'est unidirectionnel. C'est un peu ça?
On peut le voir comme ça, que la rahma, enfin, devrait en principe être déjà là, même chez nous, les êtres humains, que ce soit entre un mari et une femme, un parent et son enfant, entre amis. Enfin, en principe, on devrait incarner la rahma nous-mêmes, en cherchant à être dans cet amour inconditionnel avec l'autre. Et pardonner si les manquements de l'autre. Si on a
Mais c'est beau quand même.
si on a une meilleure compréhension du Coran, on a plus de facilité justement à être dans le pardon et à être dans l'amour inconditionnel, parce qu'on va pouvoir trouver des raisons, même si une raison c'est pas une excuse, hein. On s'entend, il y a raison, il y a excuse. On peut comprendre les raisons qui poussent une personne à faire un acte, même s'il est mauvais, mais ça n'excuse pas l'acte. Mais par rahma, on va être beaucoup plus enclin à lui pardonner, tout simplement.
À passer
À
outre,
passer
oui,
outre.
tout à fait. Mais ce que je trouve très beau dans la aya que tu viens de citer, donc la aya qui est traduite généralement par verset, mais alors moi je trouve que pour le coup, ça c'est une traduction, je me dis c'est tellement dommage parce qu'on passe à côté de l'essence même de ce qu'est une aya. Aya, c'est pas juste un verset, c'est un
C'est un
signe.
signe.
Un signe
Ouais.
sécurisant, c'est un signe qui permet de se mettre en sécurité auprès d'Allah. Quand tu le vois, tu te dis, mais oui, c'est bien sûr qu'Allah est là, bien sûr qu'il existe, bien sûr que son amour, il est inconditionnel et il est présent. Bref, à travers cette aya que tu viens de traduire, on voit quand même que la base du couple, et c'est ce que Allah, il a mis entre nous, la base d'un couple qui s'aime sincèrement en Allah, c'est quand même deux grandes notions
C'est
d'amour,
ça,
c'est fou.
c'est ça. Et si on, enfin, quand on comprend ça et qu'on laisse un peu notre ego de côté, puisque ce qui cause la perte et on va dire les divorces et toutes les séparations, c'est déjà une mauvaise compréhension de ce qu'est le couple et aussi, j'ai envie de dire, notre ego aussi.
Complètement. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Je vais juste citer la traduction de Maurice Glouton, que je trouve aussi très intéressante et très riche. Donc, la racine Wadada, sur laquelle ce nom est construit, signifie être constant, fidèle en amour, aimer, affectionner, chérir. Fixe, tout ce qui se fixe en terre. Ça, je crois que c'était très très fort
Ah oui,
aussi.
c'est vrai.
En fait, il explique que c'est un peu comme un pieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fort et que tu
C'est
incrustes.
ça,
Tu
de
vois, c'est
solide.
pas. De
De
solide,
solidement
voilà,
ancré
merci,
même,
c'est
j'ai envie
pas
de dire.
juste de solidement ancré, c'est pas juste je t'aime lundi, mais vendredi, je sais pas, hein. Peut-être que c'est ce truc de je décide de t'aimer sur le long terme.
Ouais, et c'est pour ça que
Ça, je
ça
trouvais
se
ça trop beau.
nourrit en fait.
Exactement, on parlait du fait de faire fleurir l'amour, de le nourrir, bah, c'est vraiment ça. Et de la tristesse aussi qui peut découler de pas avoir cette nourriture-là au sein même de ton union, en fait. Je trouve ça vraiment beau parce que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths qu'on vient de citer, il y a vraiment cette notion de l'amour, c'est pas. Il n'y a pas une définition de l'amour, en fait. Il y a vraiment. Allah, dans la manière dont il nous témoigne de l'amour, tu l'as dit, en plus, à travers ses différents noms, à travers. Les différentes manières même de traduire l'amour, c'est fou de voir à quel point son amour il prend différentes formes, se nourrit dans différentes situations. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment un moyen, se rappeler en fait cette conversation qu'on a là et se nourrir des noms divins, c'est un moyen de se rappeler en fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous aime. Et peut-être que les gens vont trouver ça un peu cheesy, un peu. Mais. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça avait vraiment changé ma vie de se rappeler ça, en fait.
Complètement, complètement. Là, ça me rappelle le verset que j'ai cité tout à l'heure, où Allah dit Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc, oh mes serviteurs qui ont, on va dire, outrepassé contre eux-mêmes, en fait, la taqnatu min rahmatillah, de ne pas contraindre, de ne pas contenir, et donc, par voie d'implication, désespérer de la rahma divine, en fait. Parce qu'Allah, il couvre tout. Toutes les conséquences négatives possibles de nos actes, en fait. Et de se rappeler ça, de se dire, en fait, c'est limite, s'il devait y avoir un grand péché, ce serait ça, en fait. De contenir, de restreindre, de désespérer de la rahma divine, en fait. Parce que c'est un ordre. La taqnatou, c'est très grave, en fait. Pour nous, parce qu'on se prive de quelque chose, en fait. En restreignant, justement, la rahma divine. C'est contre nous, en fait. Ça nous fait défaut à nous.
Bah, c'est fort ce que tu dis parce qu'en plus, je pense que donc c'est grave pour nous, mais c'est grave encore une fois pour la perception que les autres peuvent avoir de l'amour d'Allah en fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'ailleurs que tu diffuses, ce manque de confiance et cette nouvelle définition, cette mauvaise définition que tu peux avoir d'Allah, c'est quelque chose qui se propage dans l'air. Et j'ai l'impression, mais après, c'est à méditer, c'est vraiment une discussion, que c'est pour ça aussi que c'est très grave de faire ça parce que quelque part, cette pensée que tu as, que tu formules, ça peut avoir des conséquences extrêmement grave sur la foi d'une autre personne.
Exactement. Mais quand je disais non,
Et
c'était nous, les
ça.
êtres humains, en fait. C'était pas que
Oui,
ma
complètement,
propre
complètement.
personne, mais c'est nous dans notre, enfin, dans l'ensemble, en fait. Qu'on se
Ouais.
dise musulman ou pas, en fait. C'est que ça va avoir des répercussions sur nous, sur notre rapport aux autres et sur notre foi. Sur notre foi. Parce qu'il
Complètement.
y a des personnes qui désespèrent, qui se posent la question, qui se disent ne pas mériter l'amour d'Allah parce qu'ils ont fait trop de péchés,
Trop de péchés, ouais.
alors que pas du tout, en fait.
Il y a un hadith, non, qui explique qu'une personne avait tué
99, ouais,
99
personnes.
personnes. Voilà, et en fait, il est parti voir une personne qui lui a dit, bon, là,
C'est
toi,
bon.
t'es cuit, laisse tomber.
Il
Voilà, toi, comme on dit, t'es mort dans le film, jamais Allah, il va te pardonner. Et donc, il a dit, ah bon, bah, si c'est comme ça, autant que je
Ouais.
continue. Et en fait, le péché le plus grave dans cette discussion, c'était cette personne qui, lui, a
Oui,
désespéré la
c'est ça.
miséricorde d'Allah en lui disant, toi, c'est
Ouais,
fini, c'est ça,
c'est
on est
ça, ouais,
d'accord,
c'est
hein?
ça. Et dans les versions du hadith, c'est qu'il aurait tué cette personne-là et après, il serait parti voir une autre
Ah oui.
personne et que cette personne-là lui a dit, rends-toi dans une contrée et puis en chemin, il est décédé. Et puis il y a enfin, je pense que c'est deux anges là qui sont dit, est-ce que il est sauvé du feu ou pas, en fait. Donc, ouais,
Ah, c'est
la
clair.
première personne qu'il a vue, c'est clairement, elle a désespéré, elle a restreint l'amour divin en voyant les meurtres qui avaient été commis par cette personne-là. Alors que,
Donc, si
ouais.
vous, enfin, c'est, enfin, ça fait presque, franchement, c'est dur à comprendre pour nous, croyants, parce que pour nous, il n'y a rien d'autre que, il n'y a rien de plus grave que le meurtre. D'ailleurs, c'est pour ça, souvent, quand on nous dit que l'association est plus grave que le meurtre, dans notre tête, il y a ce truc de, vraiment? Genre, tu vois, enfin,
Ouais.
subhanallah, c'est
Ouais.
vrai. Enfin, moi, en tout cas, je le dis en toute transparence. Même à l'heure où on se parle, parce que voilà, personne n'est parfait ici, vraiment à commencer par moi. Et donc il y a encore des choses sur lesquelles je chemine, je progresse. Et ce propos de dire que l'association c'est plus grave que le meurtre, comme on vit dans une société où en fait notre échelle de valeur, si on fait pas gaffe, elle est bien plus régie par ce qu'on voit à la
Exactement.
télé, par ce qu'on nous insuffle tous les jours à l'école, etc., que par l'échelle de valeur d'Allah. Et on en vient à remettre en question l'échelle de valeur
Oui.
d'Allah parce que on a entendu toute notre vie que bah il y a rien de plus grave que le meurtre, que ah bah, tant que les gens s'aiment, c'est pas grave, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux
Oui,
dire?
complètement, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, en tant que musulman, revenir aux valeurs coraniques, en fait. Parce que sinon,
Exactement.
comme on vit dans un monde où, hélas, les valeurs sont inversées en ce moment. Donc, si on s'accroche pas à la tâche qui est le Coran, ben, en fait, on risque de se perdre.
Puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est inversé, quoi. Donc en fait, c'est pas. Enfin, tu vois, ton décalage, il n'est pas à 20-30 degrés. Tu fais un beau 180 potentiellement. Si vraiment, tu fais pas gaffe. Ben vraiment, tu vas dans l'opposé en fait, puisqu'on est dans un truc où, par exemple, chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'en fait, nous, on a une responsabilité, on se dit non, moi je suis une personne dans un groupe.
Exactement.
Donc non, il n'y a pas de je fais ce que je veux, parce qu'en fait, mes actes peuvent impacter un autre croyant hein, ou une autre croyante. Donc non, c'est fou
Ouais,
en fait de se
exactement.
dire qu'il n'y a pas plus important que moi. C'est
Ouais, c'est
faux.
faux. Et on en revient aux règles, en fait, qui permettent justement de maintenir un ordre dans la société, une certaine harmonie, en fait. On a besoin de règles. Et c'est pour ça que, en fait, tout est dans le Coran, en fait. Quand on dit que le Coran est un
Ouais.
guide, on n'a pas idée, en fait, de à quel point il nous oriente, en fait, de la meilleure des façons vers ce qui est le mieux pour nous.
C'est exactement ça. Moi, je terminerai notre discussion concernant le nom divin Al-Wadud par un hadith que j'aime trop. Je crois que c'est même l'un de mes préférés. Et je vais le citer encore une fois. Il est dans le livre de Cheikh Abd al-Razak al-Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le hadith divin dit. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me sollicite pour quelque chose, je le lui procure. S'il me demande protection, je lui donne asile. Je n'hésite pas à faire une chose autant que j'hésite à saisir l'âme de mon serviteur croyant. il déteste la mort, alors que je déteste lui faire du tort.
Machallah.
J'ai franchement, je cite ce hadith-là et je le partage vraiment comme un acte d'amour envers nos frères et sœurs, parce que la mort, c'est vraiment une épreuve. Pour les gens, perdre des gens qu'on aime, c'est difficile. Et en fait, entendre dans ce hadith que Allah lui-même n'aime pas faire ce tort-là, je trouve que c'est d'un réconfort sans nom.
Exactement.
Tu peux recevoir toutes les condoléances du monde, mais ça, de dire que Allah lui-même, il ressent ta souffrance, c'est magnifique.
Inch'Allah, ouais. Et en arabe, c'est hatta uhibbahu. C'est l'amour, mais on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types d'amour, plusieurs mots qui renvoient à l'amour dans le Coran. Et uhibbahu, c'est l'amour, mais l'amour graine, en fait. Parce que étymologiquement, le hab, c'est la graine. Donc, c'est jusqu'à ce que je ne plante en lui, un peu, c'est un peu comme si il plantait en nous des graines d'amour. Et ça, c'est magnifique, en fait. C'est encore un autre aspect de l'amour divin envers nous. Une autre forme de rahma. Et quand on s'abandonne complètement à lui, c'est un peu ce qui est dit dans ce hadith-là, ben en fait, il nous oriente dans tout, en fait. Il devient notre oui, notre main, etc., etc.
C'est vraiment trop.
Et là, quand c'est ça, ben, j'ai envie de dire, pour moi, en tout cas, c'est le summum du bonheur, en fait, de se dire...
C'est fou que tu parles de ce summum du bonheur, parce que dans un tout autre contexte, mais on comprendra d'ailleurs pourquoi j'en parle, c'est que j'écoutais un podcast et en fait, ils ont interrogé un philosophe. Bon, comme on le sait, hein, les philosophes très souvent ne sont pas les plus croyants du game. Hein. Et en fait, le philosophe redéfinissait ce que c'était que le bonheur. Et en fait, il dit en fait, le bonheur, c'est de ne pas être malheureux. Et je me suis dit, si ça, c'est pas la définition de quelqu'un qui sait pas ce que c'est que le bonheur, je sais pas ce que c'est, en fait, de se dire, oui, mais parce qu'en fait, c'est intéressant dans un premier temps, parce qu'en fait, il expliquait qu'on est dans une société où on court trop après le bonheur. Moi, faut que je sois heureux, faut que je sois heureux, faut que je sois heureux. Et en fait, il expliquait, arrêter cette course effrénée, d'un côté, il a raison, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire que le bonheur ultime, constant, éternel dans cette vie n'existe pas. Il y a des moments de bonheur, mais ce n'est pas quelque chose d'éternel. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, Asma Mujahed, dans son livre « Nous avec ton cœur ». Mais en fait, en réfléchissant, en réécoutant ce podcast, je me suis dit, non, en fait, moi, je suis désolée, mais quand on se laisse aller à l'amour divin, il y a des moments de bonheur qui sont exquis.
Exactement.
Exquis. Oui. Donc, dire le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux, c'est peut-être que tu n'as pas goûté à ce bonheur-là, ouais. En fait.
Bah, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer une personne qui est comblée par l'amour du divin et qui n'est pas malheureuse. Toi. Et qui est malheureuse. Ça, pour moi, ce serait bizarre, en fait.
Mais ça me fait penser à un hadith qui dit, en substance, hein, pardon, en gros, heureux est le croyant parce qu'en fait, quand il lui arrive une épreuve, il est heureux. Parce qu'il sait que c'est une grâce divine. Et quand il lui arrive des choses bien, bah, il remercie aussi Allah parce qu'il sait que ça vient d'Allah. C'est un peu ça.
C'est ça. Bah, c'est ça, en fait. En fait, le challenge, c'est de voir... tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie comme une preuve de la rahma divine, en fait. Que même si l'épreuve, elle est douloureuse, difficile, voire que la chose, elle est impardonnable, en fait, ben même dedans, il y a de la rahma, en fait. Et ça, c'est un vrai challenge, en fait.
C'est un vrai challenge, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais subhanallah, tu le vois vraiment, ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu décides de le voir, cette rahma-là, elle apparaît, en fait, hein, et pas... C'est pas si compliqué que ça. Alors, parfois, il faut du temps, des jours, des mois, des années. Parfois, tu dis, ah, c'était pour ça.
Ouais.
Ah, d'accord, ça m'a apporté ça. Mais la lumière, elle finit toujours par se faire. Et quelque part, même quand tu n'as pas cette lumière-là, il faut, en tant que croyant, garder la conviction que c'était un khair.
C'est ça.
Je verrai peut-être pas la preuve tout de suite, mais je la verrai par la suite. Mais je trouve quand même, la plupart du temps, tu finis par le voir.
C'est ça. Et ce qui peut aider, c'est de se dire, quand on est éprouvé, il y a une rahma. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Il y a forcément une rahma. Je ne la vois pas, mais il y a une rahma, en fait. Exactement.
Ben, c'est passionnant.
Inch'Allah.
Merci, Mouri, pour ce beau
moment. Avec plaisir.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
j'ai envie de dire, gardons espoir. Gardons en tête qu'Allah nous aime de manière inconditionnelle, qu'il s'est prescrit la rahma, et de ne jamais contraindre, restreindre cet amour inconditionnel-là pour pouvoir cheminer au mieux vers lui. Voilà.
Amine. Ben merci, c'était super beau. On demande vraiment à ce printemps-là de bénir cette discussion, de bénir les personnes qui écouteront, et même bien au-delà.
Amine.
Et on demande à ce printemps-là de ne jamais restreindre. C'est vraiment beau ce que tu dis, c'est au-delà de désespérer, c'est restreindre son amour et de toujours garder en tête qu'il nous aime quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive dans nos vies, Inch'Allah.
Oui, exactement.
Mais je te remercie beaucoup, Ouri,
Merci
pour
à
cette
toi pour
formidable
cette
discussion.
invitation et c'était génial. Je passe un bon moment par la grâce
Alhamdoulilah.
divine.
Ah ben,
Alhamdulillah.
le plaisir a été plus que partagé. Pour les personnes, pardon, qui souhaitent un peu en savoir plus sur ce que tu fais, sur les formations que tu proposes, comment ça se passe?
Ben,
Où
on
les
va leur mettre
rediriger?
les liens en dessous. On va leur les mettre les liens en dessous de mes programmes et comme ça ils pourront consulter tranquillement. Et puis s'ils ont des questions, ils pourront me contacter par mail.
Toutes les infos, les gens. Parfait. Et bien, à bientôt,
À
Bouri.
bientôt.
Salam alaikum wa rahmatullahi
Wa
wa
alaykoum
barakatuhu.
salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.